Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Imagine Campus, l'école qui fait confiance aux nouvelles générations. Une fois par mois, nous vous invitons à la découverte de parcours, portraits et points de vue de personnalités inspirantes qui chacune, dans leur domaine, ont inversé la tendance en donnant du sens à ce qu'elles faisaient. Qu'est-ce que tu inverserais de ton parcours? Quel métier tu voulais faire ado? Qu'est-ce que tu aurais aimé trouver au cours de tes études? Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais? Nos invités de Sens Inverse nous répondent en toute simplicité pour vous montrer que tout est possible. Alors on vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour David.
Bonjour.
Ravi de te recevoir sur ce podcast.
Ouais, pareil.
Alors David, tu as eu plusieurs vies et on va y revenir bien évidemment. D'abord celle de sportif de haut niveau, puisque dès 15 ans, tu es parti en sport-études sur Rennes et après tu es allé à l'INSEP à Paris. On en reparlera aussi, mais tu étais toujours confronté aux meilleurs mondiaux, qu'il faille passer par la porte ou la fenêtre pour y arriver. On parlera d'opportunités justement. Tu étais dans le top du judo mondial dans les années 90, tu étais champion de France, troisième au championnat du monde de judo par équipe en 98. Et c'est aux portes des Jeux de Sydney en 2000 que tu as arrêté ta carrière. Et en parallèle du judo, tu as étudié le droit à l'économie du sport à l'université de Limoges pour préparer la suite. Et justement, on parlera de la suite. La suite, c'est celle de ta carrière d'entrepreneur. On va parler de l'entreprise COF et tu t'es associé à un ancien judoka pour gérer ça, donc une entreprise dans la gestion de patrimoine, même si tu n'y connaissais rien, tu y es quand même allé. Et l'entreprise que vous avez revendue en 2011 pour après fonder une école des métiers du numérique, tu en es parti en 2016. Puis deux ans plus tard, tu as fondé l'entreprise à mission Harvey et bien évidemment, on y reviendra. J'ajoute enfin que tu es également vice-président de France Judo, donc tu as toujours un pied bien installé dans le sport. Alors ma première question David, puisque ce podcast s'appelle Sens Inverse, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'inverser la tendance? Déjà, est-ce que ça te va comme présentation?
Ouais, la présentation est très très exhaustive. Hein.
Oui, bah oui.
Je m'attendais pas mais bon, hein. à une présentation aussi précise. Inverser la tendance, alors je ne sais pas ce que tu appelles inverser la tendance, mais moi l'impression que j'ai eue c'est de toujours faire ça.
Ouais.
De mon parcours de judoka où j'ai démarré dans un petit club en Bretagne et où je me suis mis zéro limite alors que tout l'environnement m'incitait à penser qu'on n'allait pas dépasser certaines étapes dans la performance. J'étais le seul avec mon entraîneur à pas accepter ces informations qui m'étaient données par mon entourage. Ouais. Et j'ai bien fait parce que finalement, c'est souvent nous qui nous mettons les plus grandes barrières. Pareil dans l'entrepreneuriat, quand j'ai démarré, j'étais avec, à l'époque c'était Lionel et Karine, on était trois dans un bureau et sky is the limit, alors qu'on n'était pas forcément prédestinés à avoir des aventures d'une si grande ampleur.
Ouais. Et alors justement, on va commencer sur la partie peut-être un peu judo. À quel moment tu t'es intéressé au judo et à quel moment tu t'es dit « ouais, je vais en faire ma vie pour commencer ».
Alors, je ne me le suis jamais dit. Ouais. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai démarré le judo à 6 ans et tout de suite, j'ai su que c'était fait pour moi. J'ai adoré ça. Je pouvais me bagarrer sans qu'on me gronde et avec des règles sans faire mal aux autres. Donc, et sans se faire mal soi.
Ouais.
Donc, c'était tout un compte texte de confrontation, j'étais un garnement et je dilapidais mon énergie débordante sur les tatamis. Et comme ça m'a passionné, de fil en aiguille, le chemin s'est fait tout seul. J'ai été guidé par la passion. Enfin, c'était quelque chose de fondamental. Je ne me suis pas dit « je veux faire ça », je me suis dit « j'aime ça, alors je continue
».
Et d'ailleurs, le jour où j'ai senti que la passion s'était un peu éteinte, je suis passé à autre chose.
Ouais. Ouais. Et justement, je disais tout à l'heure, quand tu ne pouvais pas passer par la porte, tu passais par la fenêtre. Hein, je pensais notamment à une histoire au Racing, quand t'es entré là-bas. Est-ce que ça te parle, ça, déjà? Et de se dire, en gros, tu as peut-être un premier obstacle, mais bon, toi, tu trouves un moyen de le contourner.
Alors, ça, j'ai vite compris que si on voulait des choses, il fallait se prendre en main et puis prendre ses responsabilités. L'anecdote au Racing est assez parlante. J'étais dans un club qui était un bon club de première division, mais c'était pas le club qui formait les champions, c'était pas le club qui permettait d'avoir des performances incroyables. J'étais très bien rémunéré pour, alors très bien, tout est relatif, hein. J'étais un judoka bien rémunéré, c'est-à-dire que je pouvais payer mon loyer et manger. C'était déjà pas mal. mais moi, ce que je voulais, c'était avoir des médailles, et donc j'ai sollicité le Racing pour qu'ils me prennent dans leur équipe première. Et pas de chance, dans ma catégorie, ils avaient les trois numéros 1 français. À l'époque, il y avait Jamel Bourras, Bertrand Damaisin et il y avait Stéphane Nomis, qui est président de la Fédé, qui était dans l'équipe. Et je voulais à tout prix rentrer au Racing. Et donc, j'ai dit au président que je venais pour le prix d'un jeune junior. Donc, mon salaire avait été divisé par presque 3. Et j'ai bien fait parce que quelques mois après, j'étais champion de France et donc mon salaire était revenu au niveau international. Mais c'était une prise de risque et donc c'était des décisions qui étaient dictées par la passion, par l'envie de réussir mon challenge et pas par l'envie d'être dans un confort. Confort relatif, hein, parce que j'étais judoka. Mais en tout cas, c'est plus difficile de diviser son salaire par 2 ou 3 quand on est juste à la fin du mois que quand on en a beaucoup. Et en tout cas, c'était une décision qui a marqué ma vie et j'ai toujours su prendre ces décisions comme ça en me mettant parfois dans des situations inconfortables matériellement, mais très confortables dans mon esprit.
Ouais. Et justement, tu les as prises, c'est une prise de risque énorme, tu l'as dit. Qu'est-ce qui fait que tu les as prises? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui peuvent se dire « non, mais je ne vais pas prendre ce risque, il est trop important ». Qu'est-ce qui fait que toi, tu y allais?
Bah, faut se rappeler d'où on vient. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une paire de baskets, un jean, un t-shirt et des copains, et puis partager ça. Et donc, souvent, on matérialise son confort et on oublie qu'il y a plein de choses qui ne sont pas essentielles. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est de se lever le matin avec de l'énergie, de la passion et d'être captivé de ce qu'on fait. La période de judo, pour moi, a été une période extraordinaire. On me disait que tu as fait des sacrifices pour ça. Et moi, je répondais, le sacrifice a été d'arrêter. Quand on se lève le matin et qu'on vit de sa passion, on ne travaille pas. Et c'est une vraie, vraie chance, quoi.
Ouais. Justement, cet arrêt, alors pour le coup, tu avais en tête, effectivement, quand on fait ce sport-là aussi, et comme plusieurs sports, toi, c'était les Jeux de Sydney en 2000. Pour le coup, la vie a fait que tu n'es pas allé aux Jeux de Sydney en 2000.
Jamel.
Exactement. Ouais. À ce moment-là, toi, tu te dis quoi? J'arrête? Est-ce que c'est là où, en fait, ton objectif de passion, comme tu disais, c'est cette petite flamme qui commence à s'éteindre? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai pas eu de grandes déceptions quand Jamel est parti. Ça s'est joué à la loyale. Il fait une meilleure saison que moi, il part. Et j'ai tout donné. Donc, où on a des regrets, c'est quand on sait qu'on aurait pu faire plus. Et franchement, je pouvais pas faire plus. ça, j'en suis certain. Ouais. Et après, j'ai arrêté quand j'ai commencé à rentrer dans un schéma où j'allais m'entraîner avec un sac... je me projetais presque comme un professionnel et plus comme un passionné. Et le déclic a été, j'ai donné un conseil à un jeune de ma catégorie, ce que j'aurais jamais fait. Et donc là, je me suis dit, David, il est temps de passer à autre chose.
Il est temps de passer à autre chose.
Et de laisser la place aux jeunes. Il aurait fallu m'arracher quelque chose pour que j'accepte de faire ça.
Et je me suis dit, David, donc, là, tu t'es dit, ça
c'est fini.
Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle du sport, tu as étudié, donc au risque de t'entraîner un peu moins potentiellement. Ouais. Pourquoi tu as étudié en parallèle?
Ben, j'adorais ça, c'est pareil, j'aimais bien aller à la fac, j'ai toujours aimé apprendre et je rencontrais des gens différents, ça me donnait une culture différente que le monde du sport et j'ai fait mon parcours jusqu'à un master 2 en droit d'économie du sport et après j'ai fait une pause le temps de finir ma carrière.
Ouais. Et alors justement, à l'après, donc t'es passé du tatami après au costard, enfin d'un costard de judo au costard tout court que tu portes aujourd'hui. Et donc tu t'es associé à un ancien judoka, comme je disais, pour créer et gérer l'entreprise COF, pardon, un expert en gestion de patrimoine. T'y connaissais pas forcément quelque chose et t'y es quand même allé, c'est ça?
La grande difficulté, c'est quand t'arrêtes un métier de passion, c'est de se dire mais qu'est-ce que je vais faire. Et là, tout ce que je regardais était extrêmement fade. J'avais plein de propositions. J'avais un beau parcours sportif et universitaire. Donc, j'ai des propositions, mais je regardais le truc en disant « waouh, 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 je voulais être champion olympique il y a quelques mois. » Et là, on me propose Enfin, je sentais pas l'excitation.
Ouais, et la passion pour.
Et j'ai rencontré Lionel. On a fait un entretien un peu. C'était un peu lunaire. On se connaissait pas. Mmh. Et je sais pas pourquoi. Il me dit voilà, j'ai monté ma boîte. Je cherche quelqu'un pour me développer. Je cherche un associé. Et là, la phrase, il me dit je te promets rien à part qu'on va pas s'ennuyer. Je dis bah, voilà, c'est ce que je cherche. C'est voilà, je voulais pas m'ennuyer. Donc c'est parti. Pendant 6 mois, j'ai lu tout ce que je pouvais sur la fiscalité. Je l'ai accompagné nuit et jour. Enfin, on était quasiment 24/24. Enfin, je vais pas dire qu'on dormait ensemble, mais c'était presque ça.
C'est la seule chose qu'on faisait pas.
Et encore, des fois, on prenait des chambres. Dès qu'on voyageait, c'était des chambres doubles.
Effectivement.
Quelques exceptions près. Mais donc, il m'a filé tout son savoir.
Ouais.
Et c'était une période où je m'abreuvais de tout ce que je pouvais. Et puis après, bah, c'est parti. Dès que je commençais à maîtriser le sujet, j'ai refait une formation, un Master 2 en fiscalité. Mmh. Et puis, on a eu une jolie histoire avec COF qui a bien marché. Et puis après, on a refondé 2 autres sociétés.
Ouais. Et alors, tu y allais, comme je disais, sans forcément connaître. Alors, tu as étudié après pour connaître. Pareil, tu y allais sans avoir peur. Enfin, projeter, justement.
Un culot monstre.
Ouais.
Ouais. C'est-à-dire que... On sortait des tatamis où j'avais l'habitude d'avoir le champion du monde, le vice-champion olympique, que des médaillés en face de moi. Mmh. Et donc, à chaque fois que je voyais quelqu'un qui, dans les sphères, dans les catégories socio-professionnelles, était très élevé, rien ne nous impressionnait.
Ouais.
Voilà. Notre grand jeu, c'était d'essayer d'attraper les numéros des présidents du CAC 40, d'essayer de leur parler le vendredi. C'était notre fin de semaine. Enfin, on doutait de rien.
Okay.
Et ce qui a fait notre force, parce que on était capable de discuter avec tous ces grands contribuables, mmh. avec une synthèse et une facilité d'accès et des choses extrêmement pragmatiques qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir.
Ouais. Et alors, est-ce que c'est ton expérience et pour le coup votre expérience dans le judo qui est venu vous servir pour apprendre?
Ouais, complètement. Enfin, ouais. Moi, la vraie école que j'ai faite, c'est c'est tatami sup.
Ouais.
Voilà, on dit l'école du judo, c'est l'école de la vie.
Ouais.
J'ai rien de trouvé de plus compliqué dans ma vie que de me mettre en kimono devant quelqu'un que je connaissais pas, mm-hmm. Au moment où on m'appelait, c'est-à-dire pas quand je décidais d'y aller, mm-hmm. et que j'avais à peine 5 minutes pour trouver la solution. Sinon, bah, j'étais éliminé, je partais à la douche.
Ouais.
Et donc ça t'oblige à quand c'est l'heure, il faut y aller et puis t'es tout seul.
Ouais.
Donc tout le reste après. Pouvoir parler avec un beau costume, c'est beaucoup plus simple que de se mettre en kimono devant quelqu'un.
Ouais, j'imagine. Et j'en parlais justement tout à l'heure dans l'intro. En 2011, vous avez fondé une école du numérique, des métiers du numérique.
Ouais.
Pourquoi se lancer là aussi dans un projet de créer une école?
Alors, ça s'est fait, ça c'est ce qu'on raconte avec un projet, avec une vision long terme, etc. etc. C'est pas fait du tout comme ça.
Ouais.
On avait acheté une école parce qu'on faisait des maisons de retraite et qu'on n'arrivait pas à trouver des terrains pour les maisons de retraite. Donc, on s'est dit, on va acheter une école et on va aller voir les municipalités en disant j'ai une école plus une maison de retraite, donnez-nous un terrain.
Ouais.
Franchement, la stratégie, on n'avait pas appelé le Boston Consulting Group. Hein.
Effectivement. Ouais.
Et alors ça nous a plu.
Ouais, voilà. Ok.
On s'est dit, ça nous plaît même plus que les maisons de retraite.
Ouais.
Et donc, on s'est retrouvé à la tête d'une école qu'on a développée. Et puis, petit à petit, c'est devenu un des leaders. Mm-hmm. Enfin, aujourd'hui, moi, je suis parti en 2017, mais c'est une très, très belle réussite aujourd'hui.
Ouais, complètement. Et donc, pareil, c'est marrant cette envie, toujours en fait avec le culot et aller avec les opportunités, c'est ça en fait?
Ouais, enfin, je sais pas si on peut appeler ça du culot. C'est y a des opportunités, on les saisit, on les saisit pas.
Ouais.
Et puis, si on les saisit, faut être capable de s'immerger, de les traiter,
mmh.
et puis de regarder si on a une petite valeur ajoutée pour accélérer le développement.
Exactement. Et après, justement, ça, je disais tout à l'heure, donc en 2016, tu quittes cette école pour le coup, et tu vas faire un petit tour à HEC, c'est
ouais,
ça? Tu fais de nouveau, tu reprends de nouveau tes études,
ouais,
décidément.
C'est passionnant, mais j'adore apprendre.
Ouais.
Ouais, j'adore apprendre. J'ai eu l'opportunité de faire l'executive MBA d'HEC, mmh. qui est quelque chose qui est réservé à peu de monde.
Ouais.
Donc, c'était une vraie chance de pouvoir accéder à ce type de formation. J'ai fait 18 mois sur les bancs en full English, je suis très fier.
Mm-hmm. Voilà. Yes.
Parce que c'était pas gagné, je partais de loin.
Et pourquoi t'y allais pour le coup? Pourquoi t'as voulu faire de nouveau une formation?
Bah, c'est toujours le parallèle avec le sport. Quand tu, en fin de saison, quand tu arrêtes, tous les compteurs reviennent à zéro. Mmh. C'est-à-dire que tous tes titres, tout ça, j'appelle ça le flipper. C'est, tu fais ta partie, ah, t'as claqué, t'es le champion, t'as le record. Et hop, t'es appuyé sur le bouton, c'est marqué zéro partout. Mmh. Et si tu restes sur ton même modèle, c'est-à-dire que si tu refais la même chose l'année d'après, bah, t'as été observé, les concurrents sont adaptés et puis ça marche plus. Mmh. Donc t'es toujours obligé de repenser, de remettre en cause et quelquefois de faire une longue pause pour repartir à zéro et de reconstruire quelque chose va te permettre d'être meilleur à la sortie puisque tu bénéficies un de ton expérience et deux des nouveautés. Mmh. Et quand t'agglomères tout ça, t'es plus efficace. Donc c'était le moment pour moi de reprendre, de remettre les choses à plat et de repenser quelque chose.
Ok. Et ouais. ce quelque chose, c'est devenu Harvey, c'est ça ?
Exactement, c'est devenu Harvey avec une volonté de construire une société qui, dans son ADN, avait une utilité collective. Mmh. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on l'a construit. On exploite des lieux mixtes où vous retrouvez de quoi vous loger, de quoi vous restaurer, de quoi apprendre ou travailler. Mmh. Mais aussi de faire un peu de sport, on y met un dojo tout le temps, c'est normal, ça c'est le fil rouge, le judo.
Ouais.
Et par contre, on aide toute une communauté de gamins qui n'ont pas accès facilement au logement, notamment les sportifs de haut niveau. Mmh. Et ça fait partie intrinsèque de l'âme de Harvey, c'est comme ça qu'on le construit, c'est ça qui fait son succès. Donc c'est-à-dire que plus on se développe, plus on aide, et plus on aide, plus on se développe. Donc c'est vraiment une jolie histoire aujourd'hui.
Ouais. Et alors, quand tu as lancé ça, comment c'est venu ? Parce que ça aurait pu être juste un promoteur immobilier. Je mets juste derrière, ce qui est déjà pas mal. Mais donc, il y a ce côté entreprise à mission aussi. Est-ce que toi, tu as eu un déclic en te disant, en fait, faut pas juste construire des bâtiments, faut quand même accompagner, aider. Je parlerai après du fonds de dotation. Mais il y a vraiment ce côté mission quoi, de l'entreprise.
Ouais, ça fait partie... tu parlais d'HEC tout à l'heure. Mmh. J'ai eu un cours qui m'a vraiment marqué. Avec un spécialiste de l'économie sociale.
Sociale et solidaire, le SS.
Solidaire. Mmh. Et son discours était extrêmement tranché, où il disait, pour lui, si une entreprise n'a pas une utilité sociale, n'a pas une utilité collective, au-delà que de rapporter l'argent à ses actionnaires, elle va disparaître. Mmh. Et alors c'était en 2017, mmh. Donc c'était quand même il y a un moment.
Ouais, yes.
Et franchement, cette phrase m'a fait écho et en disant mais il a raison, c'est sûr. Et puis au-delà de ça, je trouve que c'est fun. Donc je dis voilà, c'est dans ce type de projet que j'ai envie d'avancer.
Ouais. Okay. Et donc avec l'idée d'accompagner, alors dans les premières personnes qui ont pu profiter de Harvey, je pense notamment à Axel Clergé l'année dernière qui a été médaillé. Ça fait quoi là aussi, parce que c'est l'objectif, j'imagine, de pouvoir accompagner des personnes comme Axel d'aller vers la victoire quoi.
On essaye. Alors j'ai trois associés. Mm-hmm. Donc, j'ai Myriam et j'ai deux autres associés, des judokas, Romaric et puis David Douillet que je ne présenterai pas.
Ouais.
Et on essaye de renvoyer un peu au sport ce qu'il nous a donné. Enfin, moi, j'ai une vie qui a été, pour le moment, extraordinaire grâce à tous ces moments que j'ai vécus grâce au judo et du sport en général et tous ces gens qui m'ont accompagné en me rendant service. Parce que le sport en France est accompagné de bénévoles qui tendent la main aux plus petits gamins et puis qui les accompagnent sur les plus hautes sphères de la performance. Et pour nous, c'était l'heure de renvoyer la balle. C'est comme ça qu'on a monté Harvey. Et on a commencé à aider quelques jeunes ou moins jeunes, que ce soit dans l'accès au logement, que ce soit pendant leur carrière ou en post-carrière dans la reconversion. Ouais. Et ouais, avec Axel, on l'aide pendant un an et finit champion olympique. Enfin, c'était une journée fabuleuse de le regarder à la télé. Et la deuxième journée fabuleuse, c'était de l'accueillir sur le Trocadéro et de fêter ça avec lui. Quoi.
Ouais. J'imagine.
Ouais, c'était chouette.
Ce que je disais tout à l'heure, tu gardes un pied dans le judo avec France Judo.
Ouais.
Là aussi, c'est une façon pour toi de redonner à ton sport.
Complètement. C'est pareil, une aventure. J'ai Stéphane qui m'explique qu'il va se présenter et qui fait une liste pour... prendre le mandat de la présidence à la Fédération française de judo, qu'on appelle France du judo aujourd'hui.
Ouais.
Et il m'a proposé d'être sur sa liste. J'avoue que je n'avais pas prévu cet appel, mais que
c'est
pareil, la passion, etc. Donc on a fait une élection Tony Truante, on a beaucoup travaillé,
ouais.
beaucoup travaillé pour écouter et puis rencontrer tous les grands électeurs de la fédération.
Mmh.
Et on a été élus.
Ouais.
Ça a été une grande surprise.
Ouais.
Un peu moins pour nous parce qu'on commence à y croire, mais ouais. on a été élus. C'était, voilà. Et donc depuis, je suis vice-président de la fédération à la formation. Mm-hmm. Ça me prend beaucoup de temps,
mm-hmm.
mais je trouve que c'est normal de consacrer un peu de temps à tous ces petits judokas et à ma discipline parce qu'elle m'a tellement donné. Quoi.
Ouais. Voilà. C'est important pour toi de garder toujours ce pied dans le sport.
Ouais,
c'est, le sport. Ça fait partie ouais, de ça, tout ce que tu fais. Quoi.
Le sport te remet toujours les pieds sur terre.
Ouais.
Tu rencontres des gens avec des valeurs qui sont extrêmement pratico-pratiques.
Mmh.
Et ça évite de t'envoler parfois.
Ouais. Dans la mauvaise direction.
Dans la mauvaise direction. Exactement.
Et imagine un peu la suite des choses. Si jamais tu pouvais inverser le sens des choses de ce qui allait arriver demain, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu as envie de changer là aujourd'hui?
Bah là, on a passé 3 années qui n'ont pas été les meilleures quand même.
Ouais. C'est
un contexte très particulier.
Ouais.
Moi, ce que j'imagine, alors en tout cas, je vais parler de notre périmètre. On a un gros succès quand on va solliciter les municipalités et qu'on leur propose nos résidences et notre concept. C'est un succès qu'on n'avait pas imaginé et qui vient du fait qu'on s'occupe des gens.
Mmh.
Donc, ce qu'on leur dit, on ne résoudra pas l'entièreté du problème, mais on va en prendre une petite partie à notre charge.
Mmh.
Et donc, ce que j'imagine, c'est que si on s'y met tous et que chacun prend une petite partie du fardeau et donne un peu plus et réfléchit différemment,
ouais.
on aura une ambiance collective beaucoup plus sympa.
Mmh.
Voilà.
La fameuse part du colibri, enfin, ça me fait penser
exactement.
À ça.
Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Mais on peut... Enfin, le colibri est dans l'histoire est tout seul.
Ouais.
Mais quand tout le monde s'y met et que tu as plein de petits colibris, ça fait ça embraye. Quoi.
Exactement. Ouais. Ça éteint le feu pour le pot. Pour regarder l'histoire du colibri qui se balade tout seul avec sa goutte d'eau, mais si on y va tous ensemble, ça éteint le feu. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours? Est-ce que tu as eu des modèles où tu t'es dit de soit par leurs valeurs, par leur parcours professionnel, sportif, que sais-je, qui t'ont inspiré?
Inspiré, c'est pas non, je crois qu'il y a.
Ouais. Il peut y avoir personne.
La notion de personne, c'est je dirais personne et tout le monde.
Mm-hmm.
On a un dicton dans le judo qui s'appelle entraide et prospérité mutuelle. Et y a une coutume, c'est que quand tu fais un combat dans le judo avec quelqu'un, tu l'invites.
Mmh.
La personne a le droit de refuser.
Mmh.
Et la personne accepte. Et si elle accepte, il y a un deal tacite qui fait que pendant le combat, les deux doivent sortir enrichis de ce combat. Donc quand tu es beaucoup plus fort, tu nivelles ton niveau pour laisser s'exprimer. Et inversement, ce qui te permet de faire des combats avec des gens moins puissants, d'un sexe différent, plus vieux, moins gradés. Et l'objectif, c'est qu'à chaque finalité de ça, tout le monde sort plus grandi. Et donc, j'ai été... grosso modo, moi, je cherche mon inspiration de tout le monde. Donc, je n'ai pas de personne que je pourrais spontanément citer. Par contre, j'essaye d'apprendre de tout le monde. Là, je passe beaucoup de temps à écouter les jeunes générations dont tu fais partie, que je trouve très intéressantes, avec une culture et un logiciel qui est complètement différent du mien.
Mm-hmm.
Et j'écoute les anciens au judo. Et j'essaye d'apprendre de tous.
Ouais. Justement, tu parles des jeunes. Parlons un peu d'Imagine Campus aussi.
Ouais.
Une nouvelle école, pour le coup. Est-ce que tu aurais donné envie de transmettre quoi comme message, justement, aux jeunes qui vont intégrer cette école?
Ah bah que on a été nuls, on a été une génération qui a été programmée dans des directions qui sont pas les bonnes,
mmh.
et que on va leur filer les clés du camion et j'espère qu'ils seront meilleurs que nous.
Ouais.
On s'est concentré sur plein de mauvaises orientations.
Mmh.
La réussite, c'est consommer, la réussite, c'est d'avoir une grande maison, puis une deuxième grande maison, etc. Enfin, des grosses montres, des grosses voitures, et qu'en réalité, la vraie vérité où les gens se sentent bien, c'est ailleurs qu'il faut la chercher. Mmh. Et vous avez déjà pris le pas. Enfin, je te le dis parce que je vois ce que tu
connais
fais,
un peu, donc
je te connais un peu, et vous concentrez sur des choses qui sont beaucoup plus essentielles. Mmh. Et donc, faites les bonnes écoles, des écoles qui vont vous apprendre à être performant au niveau du travail, mais aussi à amplifier ce que vous avez à l'intérieur de vous-même sur ce que vous ressentez être la bonne direction, et accompagner toutes les boîtes qui le feront soit de bonne volonté, soit seront obligés de le faire pour améliorer le quotidien de tous. C'est les sujets qu'on a abordés un peu tout à l'heure.
Ouais, complètement. Et t'aimerais donner quoi comme conseil à l'école en elle-même, à l'équipe, j'ai envie de dire ? Parce que là, c'était pour les étudiants, mais alors ceux qui vont gérer ?
À l'équipe ? C'est une super équipe déjà. Je les connais un petit peu.
Très bien.
Le conseil, c'est de garder leur énergie et leur sourire.
Ouais.
Voilà. Okay. Voilà. Parce que il y a une bonne ambiance quand je les vois travailler.
Important, effectivement. Ouais. Tu l'as mentionné tout à l'heure, mais dans ce cas-là, ce serait quoi pour toi la réussite, alors qu'elle soit sportive, entrepreneuriale, de sa carrière ? C'est quoi le succès ? C'est quoi la réussite aujourd'hui ?
Moi, j'ai eu plein de parcours. Et la réussite, elle est toujours liée à ce que je me sente bien dans mes baskets et je fais un truc que j'aime. Et c'est pour ça que le judo m'a autant marqué. Parce que de se lever le matin et de vivre de sa passion, ça n'a pas de prix. Donc je souhaite à tout le monde d'avoir une passion et de passer du temps sur sa passion. Et ça fait avancer le monde et ça fait rencontrer plein de gens. Enfin, la passion, c'est... C'est le moteur.
Exact. Voilà. Si on est bien avec soi-même, globalement, on est bien avec les autres.
Il faut être aligné avec ses idées et puis être concentré sur l'essentiel et pas sur le superflu.
Ouais. Pour terminer, je vais te donner des mots. Je vais te laisser réagir, soit par un autre mot, soit par une phrase. Si tu as envie de développer, comme tu veux. Prêt ?
Allez, go.
Combat.
Avant.
Pas mal.
C'était avant. C'est dur.
C'est dur.
Ouais, c'est dur.
Succès.
Ça me fait penser à la chanson J'aurais voulu être un artiste.
Ah, ouais, ok, pour pouvoir faire mon numéro. Très bien. Ouais. On va pas tout chanter, mais effectivement. Bon, on pourrait être là. On la chanterait une prochaine fois. Mission.
Waouh. Voilà, je suis un peu...
Spontanément,
ça me fait... Enfin, parce que c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui, entreprise à mission. Mais au sens large du terme, il y a des gens qui prennent des métiers, je pense aux pompiers, aux infirmières, etc., on est sûrement dans la passion, mais aussi dans la mission. Ça me fait plutôt penser à ça.
Ouais. Ouais,
chose d'un peu sérieux, là.
Ouais, complètement. Engagement.
Engagement, c'est pour moi, c'est lié à mettre l'énergie dans le bon sens.
Mm-hmm. Judo.
Ouais, le judo, c'est mon sport. Voilà. C'est le meilleur sport du monde, comme je dis.
En toute objectivité.
Ah, je fais de la propagande.
Ah ouais, complètement.
Je le dis, et puis en plus, sincèrement, je le pense.
T'es vice-président, alors on va pas.
Sincèrement, je le pense. Ouais.
L'environnement.
L'environnement, c'est de la perspective. Dès qu'on parle environnement, c'est le mot qui me vient, c'est voir loin.
Ouais. Persévérance.
C'est la clé de la réussite. Ça, c'est
Ouais. Pas besoin de développer. Je crois qu'on est bon. Le risque.
Maîtriser, voilà.
Espoir.
Futur.
Impact.
Hippon.
Hey, yes. Joli. Immobilier.
Toit nécessaire.
Carrière.
Fun.
Échec.
Normal.
Et enfin, Harvey.
La classe.
Merci beaucoup David et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Toute l'équipe d'Imagine Campus espère que cet épisode vous aura apporté des clés et de l'inspiration pour donner de l'impact à votre métier. Alors à très vite pour un nouvel épisode.